Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un être de sang, un être de littérature, de cinéma, de théâtre, d'opéra, un personnage mythique et global, Don Juan. Don Juan et quelques-uns de ses proches. Le 30 juin 1999, pour Agora sur France Culture, François Angelier recevait Pierre Brunel, l'occasion de retracer les diverses incarnations de Don Juan.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Agora, dont l'invité sera ce soir le professeur Pierre Brunel. Bonsoir Pierre
Bonsoir.
Brunel. Pour un livre qui paraît aux éditions Robert Laffont dans la fameuse collection bouquins, livre intitulé Dictionnaire de Don Juan. Alors Pierre Brunel, vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes également président de la société Claudel.
Ça ne marche pas très bien ensemble, Claudel et Don Juan, apparemment.
J'ai envie de vous poser la question, quelle était un petit peu la vision que Claudel avait de Don Juan?
Écoutez, je n'en sais rien, en tout cas il n'est pas dans le dictionnaire, comme vous avez pu l'observer, je crois qu'il faudrait vraiment chercher dans les coins.
Donc ce dictionnaire de Don Juan n'est pas un dictionnaire des Don Juan. Il ne s'agit pas du bottin des séducteurs au travers des siècles et des pays, mais bien au contraire de la tentative réussie, je signale tout de suite, puis c'est vraiment un maître-livre, tentative réussie d'inventorier absolument toutes les œuvres, qu'elles soient picturales, littéraires, cinématographiques, poétiques et théâtrales qu'on a consacrées à Don Juan, d'essayer de définir et de délimiter, je dirais par de grandes entrées, de grands articles thématiques, ce que peuvent être les dimensions à la fois du personnage, de l'histoire et la valeur mythique et historique de Don Juan. C'est une sorte de Don Juan total, global, que vous avez tenté de faire avec votre centaine, il faut le dire, de collaborateurs, Pierre Brunel.
Oui, cette centaine qui a quelque chose de donjuanesque, puisque Don Juan, c'est le vertige du chiffre à beaucoup d'égards. Un répertoire de Don Juan, des différents Don Juan, et pas du tout des personnages donjuanesques, à cette réserve près qu'il a semblé bon quand même de créer une sorte de halo avec des figures de séducteurs plus ou moins proches de Don Juan. On trouvera Valmont, on trouvera le Solal de Cohen, par exemple. Il a semblé que c'était nécessaire pour mieux définir qui était Don Juan, et je dois dire aussi que dans beaucoup de ses œuvres, qui ne sont pas des Don Juan à proprement parler, Don Juan affleure de manière explicite dans le texte, et l'introduction de Don Juan est donc permise à ce moment-là.
Alors Don Juan, c'est un substantif, puisqu'on dit un Don Juan.
Oui, avec un problème orthographique abominable que j'ai essayé de soulever au point de départ. Faut-il des minuscules, faut-il des majuscules, est-ce qu'on peut jouer avec les deux? Il faut faire une règle à cet égard, mais en rusant quelquefois avec la typographie des textes.
Alors vous citez dans votre introduction, Pierre Brunel, Georges Bataille qui parlait de la besogne des mots, à la manière dont un mot besogne à l'intérieur d'un mental collectif, à l'intérieur d'une langue. Alors, de quelle manière a besogné le mot un Don Juan? D'abord, il date de quand? Et puis, quelle a été un peu son évolution, son histoire?
Normalement, le point de départ est espagnol, comme vous le savez, avec quelque chose qui me semble un peu le fait du hasard. Pourquoi le Tenorio de Tirso de Molina porte-t-il le prénom de Juan et pas un autre? On a avancé certaines hypothèses à cet égard, mais aucune ne me semble véritablement satisfaisante. Pas de raison historique, même pas de raison évangélique.
On dit un Don Juan déjà dès l'époque,
non,
de Tirso de Molina, c'est ce mot substantivé.
Mais il porte le premier Don Juan porte ce don. Et c'est petit à petit que le nom apparaît, mais assez tardivement, sous la forme un Don Juan. C'est véritablement au XIXe siècle que...
Parce qu'on dit Don Juanesque,
oui,
Don
Juanisme. Oui, mais tout ça, c'est le XIXe siècle. Au XVIIe, au XVIIIe, Don Juan, c'est d'abord un personnage de théâtre, et on le voit tel quel, donc, avec ses majuscules.
Donc c'est un des deux grands substantifs que nous a légué l'Espagne, avec le Don Quichotte, qui est donné également Don Quichotesque.
Absolument.
Et Don Quichotisme. Alors, commençons par envisager ce Don Juan à travers l'histoire. Pierre Brunel, il y a trois entrées très importantes en ce qui concerne, je dirais, l'incarnation historique de Don Juan, Tenorio, Villa Mediana et Manara. Alors, Prenons le premier, là, le fameux Don Juan Tenorio, dont on montre que effectivement ce Tenorio est proche de tener, qui signifie posséder, celui qui possède, celui qui thésaurise, celui qui accumule, et puis également Tenorio, le ténor, et c'est...
Oui, absolument, c'est Maragnone qui a joué sur ces différentes possibilités sémantiques du nom, et je crois qu'il faut toutes les rassembler quand on pense à Don Juan, et surtout au premier Don Juan. Alors, ce Tenorio, c'est le premier nom de famille, le premier patronyme de Don Juan, avec une vie assez durable, on le trouve encore au XIXe siècle dans certaines œuvres, même si elles n'ont plus le caractère strict du Tenorio, mais même si elles virent au Magnara ou au Maragna, c'est-à-dire au troisième nom que vous avez évoqué tout à l'heure. Villa Mediana a un intérêt plus anecdotique, car il s'agit là de la mise en place d'un possible modèle d'un personnage à certains égards donjuanesque, de celui qui a été jusqu'à être le rival du roi, tandis que Maragna ou Magnara correspond vraiment à un tournant.
On ne sait pas très bien.
On ne sait pas très bien.
Il y a même, alors ça c'est extraordinaire, cela arrive plusieurs fois dans au fil du dictionnaire, notamment pour Donna Anna et pour Festin de Pierre, sur Maragna ou Maniera, il y a un tableau avec toutes les manières de l'écrire et les variations selon les auteurs.
Mais vous savez, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour les typos même qui composaient l'ouvrage. Et quand j'ai relu le manuscrit de très près, je me rappelle pour Dumas avoir mis le tilde et l'auteur furieux m'a dit « Mais non, Dumas ne met pas le tilde. » Alors là, la minutie s'imposait absolument, même si ça n'altère pas le sens profond du personnage. Alors ce Maniara, ce Maragna, tend vers un Don Juan sauvé.
Alors justement, voilà. C'est le Don Juan racheté.
Un Don Juan racheté. Parce que à ce moment-là, une sorte de collusion s'opère entre le Don Juan traditionnel et un personnage historique qui, même s'il n'a jamais été canonisé, est entouré d'une odeur de sainteté, Miguel de Maniara.
Alors, Pierre Benet, ce qui est intéressant, c'est, vous en parlez dans votre introduction, ce sont les sources historiques de Don Juan. Est-ce qu'on est quand même malgré tout arrivé à isoler, dirons-nous, des éléments historiques qui pourraient être à l'origine?
C'est très délicat. Toutes les tentatives à cet égard se sont heurtées à des sortes d'impossibles. On y a beaucoup cru au XIXe siècle. Au temps de Mérimée, on croyait à cela. On invoquait des archives qui se sont révélées purement imaginaires. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il existait une famille des Tenorio à Séville. Ce qui est vrai surtout, c'est que dans la société de l'époque, les jeunes gens libres, allant jusqu'au défi, comme le Don Juan Tenorio de Tirso, étaient fréquents. Mais de là à trouver des sources historiques précises, je crois que c'est impossible.
Alors au fil des siècles, Don Juan est évidemment maintes et maintes fois incarné, réincarné, évoqué par toutes les créateurs possibles et imaginables. Je recevais lundi Nicole Belmont pour son livre poétique du conte chez Gallimard et elle parle à propos du conte des oscillations admissibles, c'est-à-dire des variantes maximales passées laquelle eh bien, le conte se dénature et on passe à un autre conte. Quels sont avec Don Juan les éléments fixes et les éléments de variation maximum?
Je crois qu'on pourrait parfaitement reprendre cette expression pour Don Juan. Et la marge est considérable. L'âge, par exemple, il peut avoir 26 ans chez Molière et 66 chez Monterland. Et c'est tout de même Don Juan, et c'est toujours un Don Juan frappant. Il peut être jeune, vieux, il peut être beau, laid, et tout ce qu'on veut. Mais cela n'empêche pas qu'il y a un noyau dur, en quelque sorte. Et pour moi, le noyau dur, c'est hors de doute, c'est la rencontre de Don Juan avec la mort. Et plus spécifiquement la rencontre de Don Juan avec le mort. Don Juan a pu tout se permettre, mais le jour où il touche au tabou du mort, à ce moment-là, sa destinée de Don Juan s'accomplit.
Ah, ça c'est le retournement. C'est très étonnant ce que vous dites, puisque donc ce qui fait pour vous la spécificité du personnage de Don Juan, ça n'est pas le bottin des femmes séduites, c'est cette confrontation finale avec la mort et le jugement.
Des séducteurs qui multiplient les victimes ou les proies, on en trouverait d'autres. On trouverait le Casanova, Bellamy, et même dans l'entourage de Don Juan, dans la pièce de Soria, qui, vous le savez, est plus célèbre en Espagne que celle de Tirso elle-même, il y a un moment très étrange où Don Juan est en compagnie d'un de ses copains, Don Louis, et ils rivalisent pour savoir lequel a la liste la plus longue. Mais celle de Don Louis, elle n'est pas mal non plus. Seulement, Don Louis n'a pas cette rencontre avec le mort. Et c'est là que le destin de Don Juan bascule et en même temps que le destin de Don Juan se constitue.
C'est donc en définitive la rencontre avec le mort qui valide et qui scelle le destin de Don Juan.
Pour moi, c'est le noyau mythique. Ouais. Vous voyez, un Don Juan qui s'abandonnerait purement au vertige du chiffre dont je parlais tout à l'heure ne serait pas véritablement mythique. Tandis que ce Don Juan qui brusquement se heurte à quelque chose qui le dépasse et qui l'entraîne dans l'abîme, celui-là, il a fait une expérience tout à fait troublante.
Justement, vous parlez du vertige du chiffre, et il est dit dans ce dictionnaire, donc, qui paraît chez Bouquin Lafont, que Don Juan est l'homme de la quantité face au saint qui serait l'homme de la qualité.
Oui, je pense que c'est vrai. C'est une idée qui a été très bien développée par Micheline Sauvage dans un très bon livre, Le cas Don Juan, un livre de 1953, donc je me souvienne. Et le Don Juan est l'homme du catalogue, de la liste, de la lista. Je crois que nous avons cette entrée quelque part dans le dictionnaire avec des chiffres qui paraissent fabuleux, mais qui sont toujours en deçà de la réalité du personnage. Hein. Quand on retient le chiffre de 1003, par exemple, en fait, ce n'est dans le catalogue mozartien que le nombre des femmes espagnoles séduites par Don Juan. Il faut y ajouter toutes les autres, elles sont nombreuses.
Le saint, lui, est l'homme de la qualité. Ce qui nous amène justement à évoquer non plus les éléments historiques, le socle historique à partir duquel s'est élaboré le mythe et la figure de Don Juan, mais bien on pourrait appeler le légendaire Don Juanesque, avec notamment, vous citez André Jol, le morphologue textuel, enfin le chercheur qui a beaucoup travaillé sur les formes simples, sur la morphologie des récits littéraires. Cette espèce de confrontation entre légende, contre-légende, hagiographie, anti-hagiographie. Est-ce que c'est conscient chez les auteurs, ça, le fait de faire de l'anti-hagiographie?
Alors c'est le point de départ en histoire littéraire, puisque le premier Don Juan connu, ce Don Juan Tenorio de la Commedia de Tirso de Molina, est un personnage qui a été conçu comme tel. Tirso de Molina était un prêtre, et il a voulu faire une sorte de sermon dramatique en présentant un contre-modèle, un contre-exemple. Donc,
nous étions en quelle année?
La pièce a été publiée en 1630. Elle est donc, elle a été jouée certainement dans les années précédentes. Et là, nous avons exactement la contre-légende. La terminologie de Jol est ici totalement adéquate. Hein. C'est-à-dire qu'au modèle que le sermon propose d'habitude aux fidèles, se substitue là le contre-modèle, celui qu'il ne faut pas imiter parce que c'est celui qui entraînera en enfer.
Mais ça, c'est une stratégie que certains auteurs utilisent abondamment. Je pense notamment à Sade, dont certains romans se présentent comme la liste de ce qu'il ne faut surtout pas faire et qui, par une espèce de jeu et de démonisme propre au texte littéraire, deviennent peut-être le contraire de ce qu'ils auraient souhaité.
Vous savez, je viens de voir un spectacle qui m'a semblé un modèle de présentation d'un Don Juan sadien. C'est le Don Giovanni qui est donné actuellement à l'Opéra Bastille avec cet extraordinaire chanteur Brin Terfel. Et j'ai eu cette impression...
Qui joue également le Saint Jean-Baptiste de Salomé. Donc là, il peut faire à la fois la géographie et anti-géographie.
J'ai eu l'impression à la fin du spectacle, vous savez, au moment du sextoire, que Don Juan allait reparaître et mettre tout ce beau monde à la trappe dans les flammes de l'enfer, tellement il domine tout le monde et tellement il a pratiqué scéniquement le jeu sadien.
Alors, ça rendrait justement le Don Juan de Magnara, le Magnara, comment dire, beaucoup plus complet. Enfin, c'est celui qui présenterait d'une certaine façon les deux versants de la médaille.
Oui, mais alors le Magnara risque aussi d'être affaibli, affadi, parce qu'il faut tout de même faire un gros effort pour sauver Don Juan. Et c'est d'ailleurs très frappant parce que les auteurs du 19e siècle y sont rarement parvenus. Que ce soit Dumas, que ce soit Alexis Tolstoï, ils ont été obligés de passer d'un type de dénouement à un autre type de dénouement avec un Don Juan tantôt sauvé, tantôt puni, parce que ça passait mal finalement, cette maniérisation totale de Don Juan.
Est-ce qu'on peut faire un lien entre chez Molière? Vous dites malgré tout que Don Juan n'appartient pas à Molière.
Oui, mais enfin Molière l'a marqué.
Molière l'a marqué, l'a estampillé durablement, mais enfin ça n'est pas c'est pas un acte de possession et de propriété. Est-ce qu'entre le Tartuffe et le Don Juan, parce qu'on dit qu'effectivement Don Juan n'est pas une invention de Molière, mais que le Tartuffe l'est par contre, est-ce que les deux personnages selon vous, le face-à-face est fructueux?
Bien sûr, parce que le Don Juan de Molière devient Tartuffe au cinquième acte. Il prend le masque de l'hypocrite. C'est la touche qui devient insupportable, qui fait que le spectateur, finalement, est content de le voir disparaître. Là, le lien est frappant, et puis c'est à un an de distance.
Alors là, on évoque un petit peu, je dirais, la dimension morale, légendaire, contre-légendaire, anti-hagiographique de Don Juan. J'ai été extrêmement intéressé par tout ce qu'on peut dire d'un point de vue psychologique et caractérologique. Notamment à un moment, dans l'introduction, on évoque Don Juan comme l'homme de la santé essentielle. Qu'il y aurait donc chez lui, à la racine de son libertinage, de cette espèce de collecte permanente des conquêtes féminines, cette espèce de volonté de totaliser l'entièreté des femmes.
Il y a chez lui une énergie incroyable, voilà, qui se manifeste.
Comme s'il était malade de son énergie.
Oui, qui se manifeste par le mouvement, par exemple. C'est un homme qui a une sorte de manie déambulatoire. Et bien entendu, cette santé, elle s'exprime aussi dans l'érotisme de Don Juan. Il est boulimique. À cet égard, ne s'attachant à aucune, mais étant perpétuellement en quête de l'autre.
Alors, il y a une boulimie érotique, mais quand même un extraordinaire équilibre.
Oui.
Il est très organisé.
Parce qu'il n'est pas enfermé dans cette boulimie. Je crois qu'il est trop rapide pour cela. Il va trop de l'avant. Ce n'est pas un consommateur érotique pour moi, Don Juan, vous voyez. Mais il faut qu'il multiplie les séductions. Et que ces séductions aillent vite, à la fois dans la consommation de l'acte et dans le passage d'une séduction à une autre.
Ce qu'il rattacherait d'ailleurs à l'idéal baroque, qui est un idéal de la chose fluente, de la chose en mouvement.
C'était un personnage fait absolument pour l'art baroque, et il l'a marqué, indiscutablement.
Et quelles sont un petit peu ses incarnations majeures à l'époque baroque ?
Alors, ça dépend dans quel sens vous employez le terme.
Voilà, historiquement.
Voilà, et quelle date vous donnez à l'époque baroque. Je pense que le Don Juan baroque par excellence, c'est celui de Mozart et d'Aponte. Celui de Tirso, l'est d'une certaine manière, mais plus dans le baroquisme issu du Concile de Trente, d'une nouvelle pensée religieuse, d'une nouvelle conception de l'homme face à Dieu. Tandis que le Don Juan de Mozart et d'Aponte, il a tout cela, il a cette énergie, ce mouvement, ce papillonnage.
Il a ce que Maurice Blanchot, cité par Pierre Brunel, appelle la liberté désirante.
Voilà, tout à fait.
Alors, c'est intéressant d'ailleurs les citations que vous faites de Blanchot, puisqu'il montre justement que c'est la liberté faite désir, ou le désir fait liberté, Don Juan.
Si donc on peut être pris au piège de cette liberté, c'est ce qui lui arrive.
Alors donc, dictionnaire de Don Juan qui paraît chez Bouquin Lafont. Et alors, il y a un moment, donc, page 50, d'extraordinaires itinéraires thématiques qui recoupent à la fois le théâtre, les personnages apparentés, la poésie, les récits, la musique, évidemment, le cinéma et les arts. Une chose est à noter d'emblée, Pierre Brunel, en regardant ces itinéraires thématiques, c'est que le théâtre se taille la part du lion et que la poésie est un petit peu la parente pauvre.
Le théâtre se taille la part du lion, c'est normal si on songe que Don Juan a fait ses débuts au théâtre, et dans les siècles 17 et 18, il est essentiellement un personnage de théâtre. Mais votre remarque concernant la poésie m'arrête tout de même, parce que ce que je trouve étonnant, c'est que Don Juan ait eu une telle destinée poétique. On ne pouvait pas le prévoir vraiment au point de départ, qu'il puisse devenir le sujet d'une épopée entière, comme c'est le cas chez Byron, qu'il puisse être un inspirateur pour certains poètes d'aujourd'hui, comme Jean-Claude Renard. C'est une chose beaucoup plus inattendue que la multiplication des donjons théâtraux.
Pourquoi ? Il était fait pour le théâtre, selon vous ? Parce qu'on aurait pu très bien écrire des romans sur...
On en a écrit.
Mais alors, moins que de pièces de théâtre.
La preuve est donnée que la réussite esthétique se situe au théâtre et pas dans le roman. Parce que dans le roman, on est gêné justement par le foisonnement des aventures et le lecteur, à un certain moment, éprouve une certaine lassitude. Tandis qu'au théâtre, où l'obligation de la contrainte existe, où l'obligation de la sobriété, le groupe féminin se réduit à un petit nombre, hein, à 4 femmes chez Tirso, à 3 femmes chez Molière, à 4 femmes de nouveau chez Mozart, c'est très peu, mais ces femmes évoquent toutes les femmes, et la gageure pour l'homme de théâtre, c'est cela, c'est d'évoquer une diversité presque infinie avec un petit nombre qui est évocateur de cette infinité même.
Mais c'est au théâtre le fait que les chefs-d'œuvre aient été scéniques a sûrement joué.
Oui, et puis alors quel chef-d'œuvre ?
Voilà, c'est ça.
Une série en 2 siècles de 3 œuvres considérées aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre extraordinaires.
Alors, le cinéma, j'aimerais qu'on parle du cinéma, puisqu'il y a, un article tout à fait passionnant et très complet sur Don Juan au cinéma. Et on remarque que l'apparition de Don Juan au cinéma, évidemment, ça l'on s'en doute, n'est pas chez Lauzet. La première n'est pas celle du film de Lauzet d'après l'opéra de Mozart, mais elle est bien de 1898.
Oui, c'est
donc, d'une certaine façon, c'est un sujet cinématographique dès le départ.
Écoutez, de toute façon, Don Juan incite toujours à la multiplicité, hein, même en poésie. Oui. Et alors, au cinéma, ça n'a pas manqué. Ça a été une découverte pour moi aussi. Le très grand nombre.
C'est un film mexicain de Toscano de 1898.
Alors, il faut dire que certains de ces films prennent leur source dans le théâtre même.
Oui, c'est du théâtre filmé.
Y compris, curieusement, le Don Juan et Faust de Grabe qui a donné lieu à un film. Je crois aussi que la raison est que Don Juan permet une réinvention perpétuelle. Et alors, les cinéastes s'en donnent à cœur joie à cet égard.
Et selon vous, est-ce que justement le cinéma a conforté quel aspect du mythe de Don Juan pour vous ?
Il a conforté, à mon avis, deux aspects. D'abord la mobilité, parce que le cinéma, par son nom même, permet cette kinésis. Et je crois aussi qu'il a beaucoup donné à l'image frappante du châtiment de Don Juan. C'est au cinéma qu'on voit représenter cela de la manière la plus fulgurante.
Alors l'opéra, on connaît celui de Mozart, mais quels sont les autres opéras qu'on peut faire découvrir à nos auditeurs, Pierre Brunel ?
Alors il y a par exemple un très bel opéra russe de Dargomyski, le convive de Pierre, si on utilise la traduction traditionnelle, qui n'est d'ailleurs pas très juste, à partir du texte de Pushkin. Et puis il y a des œuvres musicales qui sont... non scénique, le Don Juan de Richard Strauss, par exemple, qui évoque très bien l'énergie de Don Juan. Là encore, la littérature musicale autour de Don Juan est riche d'une manière qu'on ne soupçonnerait pas.
L'œuvre de Mozart n'a bien évidemment pas gelé les inspirations.
Elle. Non, pas du tout, mais elle reste évidemment le modèle des modèles, même en littérature. Je parlais tout à l'heure du Don Juan de Pushkin, du convive de Pierre de Pushkin, qui est le point de départ de l'opéra de Dargomyski. Il serait inconcevable sans Mozart, avec cette invention, que je trouve d'ailleurs absolument géniale, c'est qu'à la fin du drame de Pushkin, le commandeur, qui est ici le mari défunt de Donna Anna, monte la garde à la porte de l'appartement où Don Juan s'apprête à faire son sort à Anna elle-même, c'est-à-dire qu'il est dans la posture de Leporello, le serviteur, au début du Don Giovanni de Mozart.
Alors intéressons-nous, Pierre Brunel, à la thématique des motifs, donc thèmes et motifs. Il y a quelque chose d'important, c'est l'épée.
Oui, parce que d'abord on peut la prendre dans un sens phallique. Hein.
L'épée est un symbole total, oui, je crois, de Don Juan.
Et puis elle est aussi le symbole de l'élégance chevaleresque de Don Juan, un aspect du personnage qu'on ne peut jamais oublier, que Molière par exemple a mis admirablement en scène. C'est un motif qui n'a pas du tout la fonction symbolique qu'il a dans Tristan et Isolde, par exemple, où il y a une sorte de limite entre l'homme et la femme et de signification de l'interdit du plaisir. Là, au contraire, l'épée de Don Juan, c'est l'instrument même de sa liberté et de cet aspect prédateur et meurtrier qui est le sien.
Alors, c'est intéressant puisque donc, l'épée, c'est à la fois d'abord le symbole, on en parle, de la noblesse guerrière.
Oui.
Le noble porte l'épée,
oui,
il est le seul à avoir le droit de la porter.
Oui.
C'est le symbole de l'arme avec laquelle, notamment chez Mozart, il ouvre un petit peu sa carrière dramatique
en tuant le commandeur.
Et puis c'est le symbole de la justice. Et c'est d'une certaine façon, ça peut être un symbole érotique.
Absolument, et cet aspect n'est pas négligé dans les textes. Ça apparaît
donc à la fois, c'est à la fois le symbole érotique, en même temps le glaive justicier. Donc il y a vraiment une espèce de reconnaissance générale de Don Juan autour du mot.
Une polyvalence, et vous avez tout à fait raison de faire allusion au glaive de la justice, puisque dans le premier Don Juan, celui de Tirso, le père de Don Juan est le juge de Sa Majesté, le roi d'Espagne.
Il y a également le repas.
Oui, alors, j'aimais beaucoup cette question qu'on vous posait tout à l'heure. Que peut-on dire de Don Juan à 20h30 ? Évidemment, c'est l'heure où on mange, c'est même, je dirais vulgairement, l'heure où on baffre. Et il y a un aspect baffreur de Don Juan. Avec
le banquet des paysans.
Le banquet des paysans auquel il participe sans que ce soit prévu. Et puis, ce festin final.
C'est vrai qu'il s'invite au banquet des paysans, de même qu'à la fin, le commandeur s'invitera à sa table
avec
sans prévenir.
Avec un jeu de répliques qui est essentiel aux grandes compositions donjuanesques. Et c'est dans ce grand repas final que la statue intervient.
Justement, la statue.
Ouais.
J'aimerais qu'on en parle. Comment là, est-ce que justement, dans vous qui êtes un spécialiste de littérature comparée, qui est quelqu'un qui a enquêté sur toutes les mythologies littéraires, est-ce qu'il y a une importance, dirons-nous, donjuanesque pour l'élaboration de la figure de la statue? Parce que cette statue qui revient comme ça, cette espèce de...
Pour moi, c'est d'une importance capitale. Je vous disais que le noyau, pour moi, c'est la rencontre de Don Juan et du mort. Et évidemment, il se heurte à cette statue. Je comprends très bien que certains metteurs en scène d'aujourd'hui donnent un aspect purement
humain. Patrice Chéreau consommait qu'une tête, oui. Une énorme tête de pierre qui rebondissait
dans
sur la scène.
Dans le Don Giovanni actuel là, de l'Opéra Bastille, la statue n'est qu'un homme, je dirais. Hein. Ça passe très bien, d'ailleurs. Mais ça me laisse un peu sur ma faim, parce que cette statue doit avoir la rigidité de la pierre. Il s'est passé là quelque chose de curieux, vous savez, dans la rédaction de ce dictionnaire. Tout à fait à la fin, alors que toutes les épreuves étaient composées, les typographes et la personne qui revoyait tout cela a buté sur pierre, qui est orthographié tantôt avec un petit p et tantôt avec un grand p. Et c'est d'ailleurs très curieux parce que le convive de Pierre, le sous-titre de la pièce de Molière, c'est en fait le convive qui invite Pierre, Pietro, dans la Commedia dell'arte italienne, à dîner. Et alors j'ai été obligé de faire un petit article à ce sujet où j'essaie de développer, au-delà de ces considérations orthographiques, que Don Juan, c'est le mythe de la pierre, finalement, et une peur très ancienne dans l'humanité qu'on trouve exprimée chez les anciens Grecs, par exemple, le moment où le vivant se heurte à la rigidité de la pierre.
La méduse, le regard qui pétrifie.
Absolument.
Mais là effectivement, pour la légende, la mythologie antique, effectivement, la pétrification est liée au regard du monstre. Mais là, j'ai noté dans l'article qu'il y a une espèce d'ambivalence qui joue entre Don Juan, qui est l'homme de la fuite, de la fluidité, du rebond permanent, de l'hyper personnage insaisissable, bon, qui est personnage baroque, et qui a face à lui, d'une manière, un dogmatisme minéral qui serait incarné par le commandeur. La pierre serait, tu es pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église.
Et le premier auteur, Tirso, prêtre, encore une fois, bien entendu, a pensé à cela.
C'est donc la statue est à la fois une valeur en tant que objet de massivité, personnage inquiétant, scéniquement un peu terrorisant de la statue qui avance, la statue qui bouge, et en même temps, elle est symbolique.
Elle est là en tant que élémentaire, ou même si on peut employer ce néologisme, élémental.
Alors restons sur scène, Pierre Brunel, et j'aimerais que vous nous parliez de Don Juan et les marionnettes.
Oui, c'est un aspect peu connu qui a été très bien révélé par un très bon article de Philippe Weigel. Alors d'abord, il faut savoir que le théâtre de marionnettes, c'est une chose très très répandue et mal connue du public parce que souvent c'est daté. Et cet article a très bien montré la richesse du développement à cet égard, avec une part d'imprévu assez sidérante, je trouve.
Et selon vous, quelles sont un peu les grandes incarnations de Don Juan, puisque là, on parle du cinéma.
Vous voulez dire les acteurs qui ont incarné Don Juan. Bon, forcément, Ruggero Raimondi, qu'on a retenu.
Oui, qui est en couverture.
C'est le regard, là, qui me frappe. Hein.
Ah bah oui.
D'ailleurs, en dédiant l'exemplaire à un ami, j'ai dit, ce n'est pas le regard noir de Carmen, c'est le regard noir de Ruggero Raimondi. Moi, j'ai été très frappé aussi par le Don Juan de Michel Piccoli,
dans l'adaptation télévisée
de Marcel Bruval. Vous savez que c'était une transposition au 19e siècle, mais alors je trouve que le personnage là est admirablement suggestif. Le danger, c'est d'en faire un personnage excessif, et je pense que il ne doit pas l'être, parce que justement il a cette mobilité, cette élégance, c'est du vif argent, Don Juan. Dès qu'on en fait quelqu'un de trop monumental ou de trop pesant, il y a une part de la magie qui disparaît.
Et à la scène lyrique, je sais que vous êtes un spécialiste de Mozart, vous avez collaboré à l'avant-scène opéra à propos des opéras de Mozart.
À la scène lyrique, oui, j'en ai vu un certain nombre, j'ai vu Ruggero Raimondi, j'ai vu aussi curieusement José Van Damme en Don Juan, puisque le Leporello du film de Lozé a joué aussi Don Juan. Là, j'ai du mal à vous dire parce que je reste...
pas les Don Juan d'il y a un certain nombre de décennies, les Ezio Pinza, Eberhard Wächter...
J'appartiens quand même à une génération encore pas trop ancienne.
Sans les avoir vus sur scène, bien sûr.
Mais j'ai été frappé par le dernier, là, par ce Brinterfell, parce que d'abord, il chante le rôle comme personne, à mon avis, avant lui ne l'a chanté, et puis parce qu'il a cet aspect effrayant qui est une limite du personnage, mais qui est aussi une composante du personnage.
Alors, j'aimerais qu'on évoque, en clôture de cette agora, Pierre Brunel, un des articles les plus étonnants, les plus savoureux et sûrement les plus érudits de ce dictionnaire. C'est l'article de Palacio, qui est votre collègue.
Jean de Palacio.
Décadence de Don Juan. C'est-à-dire Don Juan vu par la décadence fin de siècle. Alors, je cite.
Avec des Don Juan.
Il y a des choses extraordinaires. Charles Buet, tout m'était bon, la classique danseuse de l'opéra, la cantatrice cosmopolite, les comédiennes à la mode, les courtisanes huppées, les étoiles de Beugland, les ébés de brasserie, américaines curieuses, polonaises de pacotille, italiennes en rupture de mariage, modèles d'atelier, babuleuses élégiaques, marquises d'interlope. Il y a une espèce de plaisir de la profusion et de la richesse du vocabulaire.
Vous parliez de festin tout à l'heure. Là, Jean de Palacio déguste tous ces Don Juan décadents.
Alors là, on représente Don Juan comme vieillissant, usé par les plaisirs et la débauche. Comment il est un peu le Don Juan fin de siècle?
Il peut avoir tous les aspects possibles et imaginables. Oui. Mais enfin, le plus fréquent, c'est l'ambiguïté sexuelle.
Oui, ça, on en parle d'ailleurs dans l'article psychanalyse sur l'homosexualité.
Et puis effectivement, l'usure. Alors vraiment, le décadent, celui qui est prêt à tomber, non pas dans la trappe, mais tomber parce qu'il est vraiment très très fatigué.
Une sorte de Don Juan balzacien qui serait arrivé à la fin un peu de son carnet à souche en matière d'énergie vitale.
Et qui manquerait l'élixir de longue vie.
Merci Pierre Brunel d'avoir été
Merci
ce
beaucoup.
Soir l'invité d'Agora pour donc un maître livre que je vous recommande à tous, Dictionnaire de Don Juan, qui paraît chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Merci d'avoir suivi cette Agora, dont la prise de son était ce soir de Michel Gassic, la réalisation était de Brigitte Mazire, et je vous rappelle que vous pouvez consulter les programmes d'Agora sur le Minitel, 3615 code France Culture, 1,29 francs la minute. Nous quittons avec le Don Juan de Gluck, Pierre Brunel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 juin 1999, époque lointaine où Don Juan draguait peut-être sur Minitel et jetait peut-être aussi les francs par les fenêtres. Thank you.